L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, le magazine quotidien de Radio Évasion. Moins de papier pour préserver la planète, et ben c'est une excellente idée. Le digital permet aujourd'hui de remplacer ce support. Néanmoins, l'obligation de passer par le digital peut être inquiétant. On peut se sentir perdu rien qu'à l'idée de lancer la moindre application sur son smartphone, son téléphone intelligent. La technologie du digital devrait nous faciliter les tâches. Alors pourquoi fait-elle si peur? Et cette peur est-elle légitime? Alors vous avez pris de bonnes résolutions sur vos habitudes alimentaires et le respect de l'environnement. Il est encore temps de prendre la souris par la fibre optique et se débarrasser une fois pour toutes des contraintes et de la phobie du numérique. Il existe des structures, des acteurs capables de nous aider. Et pour ça, j'accueille Victor Hélary, référent et conseiller numérique à l'association Ulamir de Crozon. Bonjour Victor.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter la structure et qu'est-ce que c'est un conseiller numérique?
Ok, et ben alors, donc moi je travaille à l'Ulamir, donc c'est le centre social l'Ulamir de la presqu'île de Crozon. L'Ulamir a pour but, en gros, de créer une dynamique sur le territoire. On est là pour soutenir des projets d'habitants. Voilà, donc on propose plusieurs idées de projets, des actions en lien aussi avec les problématiques du territoire. Donc aujourd'hui, on est six employés du centre social, on travaille sur des thématiques un peu différentes. Il y a une référente senior, référente famille, un référent jeunesse, et donc moi qui suis référent au numérique. Et donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les habitants du territoire, donc de toute la Comcom, sur l'utilisation du numérique au quotidien.
Alors, le conseiller numérique, c'est un emploi qui est quand même assez récent. Ça commence à s'implanter tout doucement dans les structures du territoire. Alors, vous êtes arrivé, vous, en 2022 à l'Ulamir, il me semble.
Alors, 2022, en janvier 2022, je suis arrivé. Donc, c'est un dispositif qui commence à dater de 2017, en vrai. Avant, on avait ce qu'on appelait des médiateurs numériques, qu'on trouvait souvent dans les médiathèques. Certaines bibliothèques aussi, on pouvait en trouver. Et ça, c'était bien avant ce dispositif. Et là, à partir de 2017, en fait, l'État s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes éloignées du numérique. On parle de fracture numérique. C'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment. Et donc, l'État a créé un dispositif qui s'appelle Conseiller numérique France Service. Et donc l'idée, c'était d'employer des personnes pour accompagner les usagers sur l'utilisation du numérique. L'idée, c'est que les personnes deviennent un minimum autonomes pour pouvoir derrière faire de la démarche en ligne. Alors c'est surtout pour ça, mais derrière c'est aussi pouvoir accéder à son compte en banque, de pouvoir faire de la communication avec ses proches. Donc voilà, donc depuis 2017, l'État a engagé ce dispositif. Aujourd'hui, on est 4000 conseillers numériques sur toute la France. Alors, on se trouve dans des structures tous et toutes un peu différentes. Il y a des personnes qui travaillent dans des services publics comme des Comcom, des municipalités. On a, comme moi, d'autres employés qui travaillent plutôt sur de l'associatif. Voilà, donc moi, aujourd'hui, c'est le centre social qui s'est engagé sur ce dispositif.
Et quels sont les besoins de la population, justement, en matière de numérique?
Alors, c'est assez varié. Moi, sur le territoire, j'interviens sur l'utilisation de l'outil. Et il faut savoir que la Comcom aujourd'hui, elle a un dispositif qui s'appelle France Service et qui accompagne sur les démarches en ligne. Moi, je ne fais pas du tout ce créneau-là, parce que je le laisse à France Service parce que c'est vraiment leur mission. Moi, je vais être plutôt sur l'accompagnement à l'outil, donc tout ce qui est utilisation de la tablette, de l'ordinateur, du smartphone et tout ce qui va avec. Gérer sa boîte mail, des choses comme ça. Et aujourd'hui, les demandes que j'ai, c'est beaucoup sur les bases de l'utilisation de l'outil. J'ai beaucoup de demandes sur comment j'utilise mon ordinateur. Il y a des gens aussi qui se posent beaucoup de questions sur est-ce que je le fais correctement. Il y a des personnes qui le font un peu machinalement, sans savoir ce qu'elles font. Et là, du coup, ça pose beaucoup de questions sur l'utilisation des données, la sécurité. Justement, je rebondis sur la sécurité. J'ai beaucoup de demandes aussi sur ça, sur comment se protéger. Parce que c'est un peu la grosse problématique que j'ai, c'est que j'ai des personnes qui ont des outils, qui les utilisent quotidiennement, sans vraiment savoir ce qu'ils font, et qui viennent me voir en me disant « Oh, il m'est arrivé telle ou telle chose ». Et en fait, on se rend compte que c'est aussi de la méconnaissance, et que ces personnes-là, elles auraient pu se protéger si elles savaient un peu mieux utiliser leurs outils. Mais encore, faudrait-il pouvoir les accompagner.
D'accord. On va écouter un témoignage qui a été fait à la bibliothèque du Fou. Et on va entendre Annie, qui a 75 ans, qui est à la retraite, et Catherine, 56 ans, qui est chargée de formation dans une entreprise. Alors cet enregistrement a été fait dans le cadre d'un des ateliers que vous proposez, grâce à Léna, Joshua et moi-même. Alors on écoute ça, et vous pourrez réagir après, Victor.
Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui vous a emmené à participer à ces ateliers?
Pour me former au numérique, parce que ça ne fait pas partie de ma génération. J'ai jamais appris ça à l'école et encore moins au boulot. Donc, c'est ça le bonheur d'être retraité, mais on n'a pas été connecté.
Et bon, moi, je suis plutôt très à l'aise avec un ordinateur, mais le smartphone, ça ne m'a jamais trop branché. Sauf que maintenant, même pour des raisons professionnelles, je suis obligée de m'y mettre. Et donc, du coup, là, pas le choix, il faut y aller.
Vous trouvez que c'est vraiment différent, maintenant que vous connaissez un peu mieux le smartphone, vous trouvez que c'est vraiment différent l'ordinateur et le téléphone?
Oui, c'est pas du tout, pour moi c'est pas du tout instinctif, intuitif, faut vraiment que je cherche et j'ai beaucoup de mal à faire le parallèle en fait.
Depuis combien de temps vous assistez à ces séances?
Là, j'avais déjà commencé au printemps, fait quelques séances et par la suite je continue avec Victor, qui est particulièrement patient, pédagogue, et il nous répète quand il le faut.
C'est vrai, il est bien, Victor?
Très bien. Non, mais je dis jusqu'au moment où il trouvera que je fais du harcèlement, parce que je suis à beaucoup de cours.
Vous en êtes à votre combienième cours?
Je ne sais pas, je ne compte plus.
À ce point-là?
Ah oui. Je suis toutes les propositions possibles pour essayer de me former, parce que dans ma génération, on n'a pas du tout le réflexe de ce qu'il faut faire sur ces petits engins-là. Je suis tapée à la machine, j'ai connu les Telex, mais alors quand il faut passer à ça, c'est autre chose. Et c'est absolument indispensable aujourd'hui.
Alors, et pour vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'atelier?
C'est la troisième ou quatrième session que je fais. J'ai loupé le début, en fait, parce que je n'avais pas compris que ça démarrait à une date précise, mais... Ça m'est utile parce que il y a plein de petits trucs que je connais pas et donc ça me permet d'avancer et puis c'est aussi dans l'optique de former des parents âgés dans ma famille, donc c'est double intérêt.
Ah, donc vous êtes formatrice?
Non, je suis pas formatrice, mais je sais que j'ai une tante par exemple qui est assez âgée qui voudrait se mettre au smartphone, c'est moi sa plus proche parente et donc ça va me tomber dessus quoi.
Alors, je pose une question comme ça, mais vous le faites parce qu'elle ne peut pas se déplacer? Est-ce qu'elle pourrait assister?
Elle n'est pas sur le Fou, donc elle n'a pas spécialement trouvé de formation. Elle est sur Brest, elle n'a pas eu connaissance de ce type de formation sur Brest. Moi, c'est la première fois que je découvre ce type de formation, en fait. Je trouve que c'est vraiment une super idée parce qu'effectivement, il y a un gros besoin, je pense, dans la population. Je pense aussi notamment d'un point de vue ordinateur. Ah bon, on va être obligé de faire notre déclaration d'impôt sur Internet, mais moi je sais pas faire, j'ai jamais touché un ordi. Enfin, voilà, il y a des gros besoins, certainement quoi.
Et moi j'avais une question. Est-ce que vu que le numérique est arrivé super rapidement, est-ce que c'est intimidant ou est-ce que ça fait peur d'un coup devoir changer de manière de communiquer, de manière de déclarer ses impôts, tout ça? Est-ce que
c'est... Si. C'est très... Parce qu'on est complètement désemparé devant même les formulaires.
Ouais.
J'ai vendu une voiture récemment. Il fallait faire toutes les démarches pour la vente de la voiture avec, d'une part, la carte grise, les papiers pour vendre la carte grise, et après le numéro de code qu'il fallait transmettre à l'acheteur pour qu'il puisse faire sa demande de carte grise. Ouais. Et je vous assure que ce n'est pas évident, à mon âge, de passer sur ces formalités. Et vous n'avez personne au bout du fil pour vous donner des instructions. Donc je peux vous dire que j'y ai passé du temps.
Ouais. C'est plus, on finit par être un peu en manque de relations humaines quand même, quoi, parce que les taper 1, taper 2, taper 3, quand on a besoin d'une information... Ça va bien un moment.
Donc vous disiez que c'était compliqué de se mettre au numérique, tout ça. Et alors, est-ce que quand le numérique a commencé un peu à arriver, est-ce que vous y êtes mise tout de suite? Ou est-ce que vous avez essayé de reculer au maximum vos débuts sur les téléphones, tout ça?
Bon, j'ai essayé de m'y mettre, mais c'est pas évident. On reçoit le téléphone, vous retrouvez avec cet engin-là. Quand vous êtes habitué à taper les chiffres, quand c'était pas avant avec la roue, hein, vous vous retrouvez complètement désemparé avec cet engin. Je dois dire que quand j'ai pris le premier téléphone mobile, je me suis retrouvée idiote parce que j'avais des amis que je devais rejoindre. Ils m'ont téléphoné pour me dire où ils se trouvaient. Et je ne réussissais même pas à décrocher parce qu'on ne m'avait pas montré comment faire. Donc ce que j'ai laissé sonner. Et quand ils ont arrêté de sonner, ben, j'ai refait le numéro pour les appeler. Alors vous voyez à quel point j'ai commencé. Donc c'était base zéro. J'essaye d'avancer.
Voilà, donc c'était une interview réalisée par Léna Joshua et moi-même. Donc pendant un atelier, vous avez beaucoup écrit, là, pris beaucoup de notes. On parlait de la fracture. Moi, j'avais presque envie de parler d'anxiété du digital. Bon, bah là, je crois que c'est clair.
Je crois que là, c'est bon. Il y a un peu de tout ça. Là.
Je crois que là, on est bien. Annie, elle qualifie plusieurs fois le téléphone, un simple téléphone, d'engin. Et c'est quand même pas rien.
Bah non. Mais c'est intéressant dans ce reportage qu'il y a énormément de choses à dire, c'est assez représentatif. On a deux profils complètement différents. On a Annie, là, qui est une personne, une senior à la retraite, à qui on a mis un engin dans les mains,
ouais.
Et qui s'est retrouvée du jour au lendemain avec ça, sans qu'on lui explique quoi que ce soit.
Mais rien, non. Mais rien du tout. Elle parle même qu'elle n'arrive même pas à décrocher. Ouais. C'est quand même dingue, parce que c'est quand même hyper intuitif, normalement, ouais. Un téléphone.
Alors, c'est intuitif. En fait, on se retrouve avec une génération de seniors qui pensent que la génération qui me précède, là, généralement, est née avec ça dans la main. Et pour eux, c'est très facile. Alors, moi, je les stoppe tout de suite en disant non. Oui et non. Oui, cette génération est née avec un téléphone dans la main, c'est clair. Pour autant, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils font. Et on va se retrouver avec cette problématique de fracture numérique parce qu'en fait, ces jeunes-là ont une utilisation qui est différente. Dans un cadre professionnel, dans le cadre de l'administration publique, l'utilisation du qu'ils en ont n'est pas la même. Donc du coup, ils vont se retrouver à un moment donné embêtés parce que ces personnes-là ne sauront pas le faire.
Alors c'est quoi exactement le besoin que peut avoir, on va dire, une personne qui a... je sais pas, peut-être 15-20 ans, juste avant d'être super actif, un actif et puis un retraité.
Alors, pour moi, c'est ma vision de la chose, ouais. c'est pas officiel ou quoi que ce soit, hein. c'est vraiment mon sentiment, c'est que la personne de 15-20 ans, elle va être dans la consommation. Alors, on va être dans l'utilisation du smartphone et ou du numérique un peu consumériste. C'est-à-dire que bon, on a du réseau social, on a de l'achat sur Internet. Il y a les établissements scolaires hein, qui font utiliser de plus en plus le numérique, et ce qui a posé une grosse question le jour où il y a eu cette fameuse pandémie.
Oui.
et on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, il y a, parce que la fracture numérique, c'est ça aussi, il y a plein de familles qui n'étaient pas équipées en ordinateur pour pouvoir faire du travail à distance. Donc voilà, donc il y a aussi ça, le scolaire qui fait qu'aujourd'hui on utilise de plus en plus le numérique pour cette génération. Les actifs, la question est un peu différente parce que les personnes qui sont directement en emploi, elles utilisent énormément le numérique. Alors ça dépend des métiers, hein. Mais beaucoup de services utilisent énormément le numérique. Il y a beaucoup aussi de métiers dans l'agroalimentaire, les choses comme ça, maintenant qui utilisent le numérique. C'est devenu une façon de faire, hein, de toute façon. Après, il y a des métiers qui ne s'y prêtent pas du tout. Et c'est ces métiers-là qu'il faut cibler. C'est-à-dire qu'il y a, ben, je vais prendre un exemple, hein, par exemple, sur une commune du territoire, j'ai des agents du service public qui s'occupent des espaces verts et eux, certains ont des difficultés à utiliser l'ordinateur pour passer des commandes. Voilà, bah, c'est normal parce que ces personnes-là, eux, n'utilisent pas l'ordinateur tous les jours, donc il y a besoin d'un accompagnement ou de formation. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir cibler, c'est les personnes qui sont un peu plus éloignées du numérique dans leur utilisation professionnelle et aussi les demandeurs d'emploi. Parce que ces personnes-là ne sont pas en activité, donc des fois éloignées du numérique, ou alors ils l'ont utilisé, mais n'ont pas réussi à suivre le train en marche. Et donc du coup, se retrouvent à faire, quand ils arrivent en emploi, dans un travail, on leur demande de faire telle ou telle chose sur l'ordinateur, elles risquent d'être complètement perdues, parce qu'en fait, ça fait peut-être 10 ans qu'elles sont sans emploi, et elles n'ont pas pu manipuler entre-temps, donc il faut aussi les accompagner.
Ouais, d'autant plus que le numérique, c'est quelque chose qui avance très vite.
Ouais, complètement.
Tous les ans, il y a un nouveau truc qui chamboule l'année ouais. d'avant, et puis l'année d'après, ce sera encore pire.
Et puis l'être humain, le changement, il n'aime pas trop ça. Malheureusement, le numérique, il adore. Donc si on ne suit pas, même moi, hein, des fois, je me retrouve à utiliser des outils. Si je ne l'utilise pas pendant, allez, peut-être 6 mois, bah, je vais retomber dessus, il va falloir que je me reforme un peu tout seul. Voilà, donc ça, il faut faire extrêmement attention. C'est un public où il faut être un peu vigilant et essayer d'attirer. Donc là, c'est aussi moi de faire attention au moment où j'organise mes actions. Et enfin, le public senior, l'utilisation du numérique, ça va être plutôt voilà, tout ce qui est démarches administratives. Alors, ce qui est le cas aussi pour le public précédent, hein, les actifs et non actifs, l'utilisation pour la démarche, les démarches en ligne, c'est hyper utilisé parce que l'État le demande. Hein. Maintenant, sa fiche d'imposition, il y a très peu qui le font en version papier. Et l'État se dégage un peu de ça aussi. Alors ça pose question sur plein de choses, sur l'accès aux droits et tout ça. Donc c'est aussi important. Donc je reviens sur les seniors. Ça va être plutôt la communication avec les proches.
Oui, mais le Covid, ouais, justement, ouais. Qui a dû bien forcer le truc.
Ah, complètement. Ce qui est, alors je vais pas utiliser le mot drôle, mais ce qui est assez... Ce qui interroge, c'est par exemple, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « Écoutez, je suis embêté parce que, par exemple, moi, je fais partie d'un club senior et ils discutent tous par WhatsApp, ils discutent tous par Messenger, par mail. »
Je sais pas quel truc.
Voilà, c'est ça.
Je comprends rien.
C'est ça, je suis complètement perdu, je suis pas informé et quand je me retrouve dans la discussion avec les personnes, je sens que j'ai loupé quelque chose d'hyper important. Je sens que je suis pas dans le truc. Et en fait... Ouais. Les personnes ont créé une forme d'exclusion sociale. C'est-à-dire que elles ont toutes discuté entre elles, on s'est envoyé des petits mails pour discuter du prochain rendez-vous, qu'est-ce qu'on faisait, comment on s'organisait, puis la personne qui n'est pas dans la boucle, parce qu'elle n'utilise pas l'ordinateur, parce qu'elle n'utilise pas l'application que les autres utilisent, quand elle arrive, elle est complètement perdue.
Oui, mais pourtant, ces gens-là, ils ont quand même bien... quelqu'un, alors pas forcément un proche, mais un ami pas trop loin, pour lui dire « Regarde, faut faire comme ça. Pourquoi
?» C'est pas toujours le cas, en fait. C'est ça, en fait, voilà, c'est ça aussi. Là, on prend l'exemple d'Annie. Annie, je trouve ça génial qu'elle fait cette démarche d'aller, ouais. d'aller à la rencontre des personnes qui sont là pour l'accompagner. Elle sait très bien, et j'en ai discuté avec elle, que s'il n'y avait pas eu ce dispositif, elle serait un peu toute seule, en fait. Ouais. Et c'est aussi ça. C'est-à-dire que cette personne-là, elle m'expliquait que pendant un temps, elle avait quelqu'un qui était un ancien technicien informatique, qui était à la retraite, qui l'accompagnait. Le jour où cette personne est décédée, elle s'est retrouvée toute seule. Et donc là, en fait, ça pose la question de l'autonomie. Et c'est pas une solution, l'entourage, c'est pas une solution à long terme. C'est-à-dire que les personnes sont là, généralement, elles font à la place d'eux. Elles ne vous accompagnent pas. Moi, je l'ai vu. Hein. Pendant des années, j'ai fait exactement la même chose avec mes proches. C'est-à-dire que je n'expliquais pas. Je faisais à la place d'eux. Et le jour où je suis parti, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'ai fait, c'était pas bon. Parce qu'en fait, je vais prendre l'exemple de ma mère. Ma mère, je ne l'ai pas rendue autonome. C'est-à-dire que le jour où je pars, elle est complètement laissée à elle-même. Et elle ne sait pas faire telle ou telle chose. Donc,
elle l'a vu, mais elle n'a rien enregistré du process,
oui,
en fait.
Non, c'est ça.
C'est ça.
Et c'est là mon tort. C'est-à-dire que... Et là, j'essaye aussi, c'est mon rôle, quand je vois les proches, de leur dire, prenez le temps d'eux. Parce que, alors oui, c'est bien. Et quand les gens viennent me voir, oui, mais moi, c'est mes petits-enfants qui font que... Ok. Et la charge n'est pas un peu lourde pour vos petits-enfants de faire votre déclaration d'impôt à votre place? Parce que c'est quand même le jour où ils se plantent, le jour où ils se sont trompés, il y a une espèce de petite pression pour eux quand même, on s'en rend pas compte. C'est quand même une grosse responsabilité et demain ils peuvent pas la faire. Ou il arrive quelque chose d'important et ils sont pas là pour le faire à votre place. Mmh. Comment vous faites ? Vous vous retrouvez toute seule. Donc en fait, c'est important, et là, c'est là aussi où moi j'interviens, c'est de créer une sorte d'autonomie. Je dis pas qu'on sera autonome sur tout, mais au moins un minimum pour pouvoir se dire, le jour où je suis tout seul, je peux régler ce problème-là, où je sais trouver un accompagnement.
Donc du coup, c'est super important pour vous de connaître un petit peu l'état d'esprit dans lequel les gens arrivent, ce pourquoi ils viennent, le profil des gens, voilà. Mais là où je m'interroge, c'est sur l'outil. Enfin, quand je dis l'outil, je parle de l'appareil en lui-même. C'est qu'il y a plusieurs appareils, donc plusieurs interfaces, plusieurs façons d'arriver à la solution. Et comment on fait ?
Alors là, c'est la grande question. Alors ce qui se passe, c'est que généralement, les gens m'appellent au centre social et moi je les invite à le faire, à vraiment pas hésiter à m'appeler. Le centre social, c'est ça, ça sert à ça aussi, c'est venir nous rencontrer, juste papoter, boire un café, puis petit à petit, on se rend compte qu'en fait, on connaît telle ou telle personne, telle ou telle action qui pourrait les aider. Donc généralement, les gens m'appellent, moi je prends un peu la température, je leur demande comment ça se passe avec le numérique, comment vous êtes équipés, et puis je les dirige vers une action et je me rends compte qu'effectivement le matériel pose problème. Parce qu'on a changé de matériel, on est complètement perdu, ou alors dès que je les mets sur autre chose, aujourd'hui la personne utilisait du Windows, je leur dis venez, on va tester autre chose, on va tester Ubuntu qui est un autre système d'exploitation qui peut vous aider à faire ce que vous faites aujourd'hui, mais gratuitement et librement. Et la personne, je la sens complètement perdue. Donc là, moi, sur mes actions, ce que j'essaye de faire, plutôt que de vous dire, oui, je vais vous permettre de vous approprier votre propre matériel, mais je vais vous montrer que ce que vous faites là, vous pouvez le faire exactement la même chose sur celui ou celle du voisin.
Donc vous lui apprenez à lire le numérique.
Complètement.
Parce qu'Annie parlait, alors on l'a pas entendu, c'est que elle se considérerait ou se considère encore un petit peu comme une illettrée et qu'elle a besoin de la grammaire des bases. Et donc, en fait, votre travail, c'est dans ces ateliers-là, c'est de prendre tous ces petits points de repère qui sont un petit peu identiques à tous les systèmes pour pouvoir arriver en fait à ce dont on a besoin.
Vous avez parlé d'illettrisme et c'est rigolo parce qu'on a un mot en ce moment qui sort beaucoup, c'est l'électronisme. Donc c'est tout. On aime bien les mots barbares. Et en fait, électronisme, on parle d'électronisme pour des gens qui sont vraiment éloignés du numérique, qui comprennent réellement pas le langage numérique. Et c'est là mon intérêt, moi, c'est justement d'amener ça, de se dire le numérique, c'est vaste, mais il y a un langage qui est assez commun. C'est-à-dire que quand on tombe sur une icône et que, je ne sais pas, c'est une icône avec un téléphone, on sait automatiquement que ce qui risque de se cacher derrière, c'est un numéro de téléphone. Que quand on cherche un contact, une adresse mail, souvent on va chercher la petite icône avec l'enveloppe. Il y a un langage commun et si on arrive à l'interpréter et à le comprendre derrière, en fait ça va juste de la facilité. Et c'est là où les proches ou la famille a tendance à ne pas faire, c'est justement, par exemple, la personne a besoin d'apprendre à utiliser un outil, on va lui montrer comment fonctionne l'outil sans montrer autre chose. Alors que moi, je vais avoir tendance à, je vous montre, par exemple, je vais prendre WhatsApp, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais derrière, je peux vous montrer aussi comment fonctionne, Messenger, et vous montrer, vous avez vu, les boutons, ils sont pas placés au même endroit, mais on se rend compte que c'est une enveloppe, et que si on clique dessus, ça sera la même action. En fait, c'est ça, c'est vraiment ce travail de traduction. Et c'est le rôle du médiateur.
D'accord. Alors, rapidement avant qu'on se quitte, c'est quoi vos prochains ateliers, justement ?
Alors, là, moi, j'interviens sur deux communes pour des ateliers collectifs. Donc, j'interviens sur Rosnoen, où là, je fais un atelier prise en main de l'ordinateur. Et à côté de ça, je propose aussi des ateliers thématiques. Donc, on va apprendre à gérer ses mots de passe, parce que ça, c'est une des grandes questions et une grosse problématique. On va apprendre à gérer sa boîte mail. On va apprendre à acheter, vendre ou faire des dons sur le web. Voilà, et tous ces ateliers-là, je les propose également à Roscanvel. Donc pareil, je propose ces mêmes thématiques. L'idée, c'est de travailler, de proposer ces ateliers et sur l'Aulne et sur la Presqu'île. Voilà, donc là, les ateliers collectifs, c'est en libre service. Donc c'est-à-dire, il faut juste appeler le centre social pour pouvoir s'inscrire aux ateliers. Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, on a de l'accompagnement individuel. Donc là, c'est des bénévoles. Vous appelez le centre social, vous dites, ben voilà, j'ai besoin d'apprendre à faire telle ou telle chose avec mon équipement. Et moi, j'ai une super équipe de bénévoles qui sont taquets et qui sont là pour vous accompagner. Ils sont hyper pédagogues, qui font cela pour vous accompagner pendant 30 à 45 minutes sur votre thématique. Voilà. Donc, faut pas hésiter. Tous ces accompagnements-là sont gratuits parce qu'ils sont déjà financés par l'État. Donc, vous n'avez rien à débourser, pas de système d'adhésion ou quoi que ce soit. Donc, faut pas hésiter.
Bon, bah c'est super. Alors, j'avais plein de trucs à dire, mais malheureusement, on n'aura vraiment pas le temps. Il est l'heure pour moi de libérer Victor. Alors, merci beaucoup d'être venu. Et on vous retrouvera quelque part au mois de mars pour un autre sujet sur le numérique.